au premier étage. Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionce dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Y'a du partout dans la tour. Y'a du partout dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Pops ont commencé à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, vous êtes à l'écoute de l'émission de L'Envolée sur 106.3 FM, radio Fréquence Paris Pluriel en région parisienne, et rediffusée la semaine suivante sur une quinzaine de radios associatives en France, qu'on remercie beaucoup au passage. Cette émission est enregistrée hors les murs, dans mon salon, par moi-même Elsa, avec la participation de Zéro et de Gabriel. Voilà, donc vous verrez que le montage, les sons, c'est pas toujours génial, parce qu'on n'est pas en direct des studios, on fait comme on peut, voilà. Cette émission, elle est diffusée le vendredi 26 juin 2026 sur Fréquence Paris Pluriel. C'est quoi l'Envolée ? L'Envolée, c'est une émission de radio et un journal contre toutes les prisons qui donne la parole en priorité aux premières concernées, les prisonniers, les prisonnières et leurs proches, qui racontent ce qui se passe en prison et dans les autres lieux d'enfermement et qui analysent et dénoncent ce qui se passe, voilà, et ce qui se passe et comment fonctionne la justice qui nous enferme. Pour nous contacter, parce que cette émission n'existe que par les contributions des premiers et premières concernés. Donc pour nous contacter, pour nous écrire des lettres, si vous voulez soit discuter avec nous, soit qu'elles soient lues à la radio, vous nous le précisez. Donc c'est par la poste, à l'ancienne, bah oui. Alors vous nous écrivez à cette adresse, l'envolée-fpp, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Après, pour les personnes qui ont accès à d'autres moyens de communication, eh ben, y a les mails contact@l'envolée.net. L'envolée, c'est tout attaché, sans accent. Voilà. Vous pouvez aussi consulter notre site internet, l'envolée.net. Et vous pouvez aussi nous contacter par SMS sur notre répondeur et éventuellement sur Signal si vous pouvez, 07 53 10 31 95. Je répète, 07 53 10 31 95. Je rappellerai les contacts en fin d'émission. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram. Voilà, il y avait un espèce de Twitter et un Facebook, mais je crois que... Vous pouvez essayer, mais je crois qu'ils sont un peu dépassés. Voilà, aujourd'hui dans cette émission, de quoi allons-nous parler ? On va revenir assez longuement sur la justice et l'enfermement des violeurs, des personnes qui ont agressé ou violé des enfants, et sur les violences sexistes et sexuelles en général, et sur le recours à la justice et à la prison pour régler ce problème de société, qui est un énorme problème de société. Voilà, on a décidé de ça fait longtemps qu'on voulait en parler un peu plus sérieusement à cette antenne. On a décidé de réagir à la tragique mort de Liana, qui a fait un peu beaucoup parler, et c'est normal, et beaucoup réagir. Donc on passera une bonne partie de l'émission sur ce sujet, à réagir sur ce sujet, avec des paroles de personnes concernées et de personnes enfermées. Et pour commencer cette émission, on va parler de ce qui se passe dans les QPR, quartiers de prévention de la radicalisation, ces quartiers d'isolement et de torture qui ne disent pas leur nom. Et on voulait quand même commencer par évoquer vite fait la canicule. On en parle à chaque fois qu'il fait chaud. On est tous en train de galérer de ouf dehors avec cette chaleur. Évidemment, les galériens galèrent encore plus. Et évidemment, c'est en prison que c'est le pire. Les nouvelles qu'on a de l'intérieur, c'est que l'administration pénitentiaire ne met rien en place pour protéger les personnes détenues. Qu'il fait extrêmement chaud dans les cellules et dans les prisons parce que c'est structurel, parce que les prisons ne sont pas isolées, à part isolées par des caillebotis qui sont des grilles qui empêchent l'air de rentrer. Il n'y a aucune protection contre le soleil. Les cellules, c'est des bouilloires et la répression suit son cours. Hein, ça, il n'y a pas de canicule pour la répression, pour la sécurité, pour les fouilles de cellules. Mais par contre, vraiment, à nos oreilles sont parvenues pas beaucoup de nouvelles de mise en place de prévention pour les prisonniers. Donc c'est super dur. Il y a des cellules à plus de 40 degrés depuis des jours. Il y a des prisons où on n'a toujours pas le droit de cantiner des ventilateurs qui sont un peu l'un des seuls moyens de survie. Alors heureusement, on sait que les prisonniers et les prisonnières ont plein de manières de se protéger. Mais quand même, là, ça devient super grave. Donc on pense fort à vous, plein de force. On vous souhaite un maximum de mini fraîcheur. Tenez le coup. Et on a déjà eu l'écho qu'il y avait peut-être bien des gens qui étaient, au moins une personne qui était décédée à cause de la chaleur à Villepinte. On ne sait pas ce qu'il en est plus précisément. On ne sait pas si c'est vrai. Mais on espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts chez les prisonniers et prisonnières. N'hésitez pas à nous raconter, à nous donner des nouvelles, c'est quoi la température dans les cellules, c'est quoi les moyens de prévention mis en place, est-ce qu'il y a des protestations, etc. Bon courage à tous et à toutes, on va commencer l'émission. On va commencer direct avec Zéro, on va parler des QPR, quartiers de prévention de la radicalisation, ces quartiers qui existent depuis quelques années, une nouvelle invention de l'État, pour isoler et torturer, en gros, n'est-ce pas? Mais on n'avait jamais eu beaucoup d'écho de ce qui s'y passait, même si ça nous inquiétait un peu. Là, on a un communiqué à vous lire qui parle de la situation de Salim, qui a été placé en QPR et qui refuse la logique des QPR et qui dénonce ce qui s'y passe. Voilà.
Oui, donc je vais vous lire un communiqué de l'Envolée qui date du 22 juin 2026. Salim a été transféré au quartier de prise en charge de la radicalisation, QPR, de la santé en janvier 2026. Ce sont des unités pénitentiaires spécialement conçues pour enfermer les détenus condamnés pour terrorisme ou désignés comme radicalisés, afin de les séparer des autres prisonniers au moyen de cellules individuelles, de promenades dédiées et de parloirs séparés. La décision du placement en QPR, en quartier d'isolement, ou en détention normale, est prise au terme d'un passage de 17 semaines en quartier d'évaluation de la radicalité, QER. Salim a été envoyé au QER de Vendin-le-Vieil en 2021, parce qu'il refusait catégoriquement de rencontrer le binôme de soutien, un éducateur et un psychologue censé évaluer la radicalisation des prisonniers. En effet, puisqu'il a été condamné pour des faits de droit commun, l'administration pénitentiaire n'avait pas d'autre motif de le lui proposer que la longueur de sa barbe, qui n'a jamais varié. Musulman pratiquant, la religion lui a permis de tenir le coup en détention. Mais il ne s'est pas tourné vers l'islam radical pour autant. Pour contester l'étiquette qu'on lui collait d'office, Salim a continué à refuser tout entretien avec les experts, les psychologues et les services pénitentiaires d'insertion et de probation, SPIP, dans les différentes unités où il a été placé. Depuis son passage au QER, il subit un traitement particulièrement dégradant, notamment du fait de fouilles systématiques, alors qu'il n'est plus DPS, détenu particulièrement signalé. Il est fouillé à chaque mouvement, palpé chaque fois qu'il remonte de promenade, et fouillé à nu après tout contact avec l'extérieur. Après le QER, Salim a été placé à l'isolement de 2021-2024, puis affecté en détention normale jusqu'en 2026. Lorsqu'il a été placé au QPR de la santé, il a d'abord été seul en promenade, et c'était pour lui un moment essentiel. L'occasion de pratiquer une activité sportive et de marcher pour supporter les 23 heures qu'il passe chaque jour en cellule. Jusqu'au moment où l'administration lui a imposé la présence d'un autre prisonnier. Sa demande d'être seul en promenade n'est ni un caprice, ni un rejet des règles de l'établissement, mais un choix mûrement réfléchi. Il préfère rester à l'écart parce qu'il sait d'expérience que l'administration pénitentiaire prend prétexte des moindres interactions entre prisonniers pour leur coller des étiquettes qui les suivent jusqu'au bout de leur peine. Après avoir demandé par courrier à être seul en promenade, il est resté 2 semaines sans y aller. Un jour, il a voulu redescendre en promenade, et quand il a vu qu'on le remettait avec l'autre prisonnier, il est remonté en cellule sans autorisation. Ça lui a valu un compte-rendu d'incident, qui s'est soldé par une peine de 10 jours de quartier disciplinaire. Depuis qu'il y a été placé le 21 mai, il refuse d'en sortir. Existe son transfert et sa sortie du QPR. Ça fait donc 3 semaines qu'il est au mitard de la santé, dans des conditions de détention particulièrement dégradantes et déshumanisantes. Ses rations de nourriture sont réduites. Il ne reçoit qu'une paire de couverts jetables en bois à son arrivée au mitard, et avec la chaleur et la saleté, ils pourrissent. Comme il n'y avait pas de robinet dans sa cellule, il a longtemps été obligé de boire à la douche, jusqu'à ce qu'on finisse par lui en installer un récemment, après force réclamation. Il n'a accès à des vêtements propres qu'une fois par semaine, au parloir. Du fait de son placement en isolement, ses parloirs sont limités à 45 minutes par semaine, sans accès aux salons familiaux, alors que sa famille fait des centaines de kilomètres pour venir le voir toutes les semaines. Il est arrivé à plusieurs reprises que les surveillants l'appellent pour le parloir et pour la promenade en même temps, ce qui l'oblige à choisir entre les deux. Son dernier sac de linge a été refusé pour des motifs totalement arbitraires. Une housse d'oreiller jugée non réglementaire, alors que c'est celle de sa cellule, avec l'étiquette de la santé. Il a entendu l'officier du QPR dire à son collègue derrière la porte « Il veut rester au QD ? Faites-lui la totale. » Son placement en QPR vient d'être renouvelé pour 6 mois, bien que l'administration pénitentiaire reconnaisse qu'elle ne sait rien du rapport de Salim à l'islam. Elle lui ordonne de répondre aux divers experts du QPR, sans quoi il sera placé à l'isolement. Salim demande son transfert en centrale, conformément à son statut de prisonnier longue peine, afin de pouvoir bénéficier de parloirs en unité de vie familiale et sa sortie du QPR. Il exige que l'administration cesse de l'étiqueter comme radicalité et qu'il soit mis un terme au traitement dégradant et aux conditions de détention déshumanisantes qu'il subit au mitard de la santé. Si vous voulez soutenir Salim, contactez la prison de la santé au 01 46 21 80 20 et à l'adresse postale 42 rue de la Santé, 75 674 Paris CEDEX 14.
Ouais, ok. Donc, là, on voit bien, malheureusement, on voit bien ce que c'est que les QPR. C'est un peu ce qui nous semblait. C'est des lieux où on est envoyé d'une façon totalement arbitraire. En plus, sur fond d'un racisme structurel contre les musulmans qui n'est pas en train de s'arranger et qui est instrumentalisé et très utile pour tous les politicards. Alors, la gauche se gêne pas, mais la droite et l'extrême droite se gênent encore moins. Voilà, donc il y a ça. Et puis, il y a vraiment un étiquetage dont on a déjà parlé, un étiquetage vraiment arbitraire des gens. Là, c'est pour une barbe. Ici, ce sera pour autre chose. À tel moment, ça sera juste pour un soupçon de ceci ou cela. Et en plus, on en a déjà parlé, c'est pour des... Ça peut être basé sur les notes blanches des renseignements pénitentiaires, on en a déjà parlé, qui sont vraiment des... qui ont des pratiques de guignol, hein. On l'a déjà pas mal décrypté quand même quand on avait parlé du procès de l'attentat de Condé sur Sarthe. Enfin, des guignols entre mille guillemets, mais les fichiers du renseignement pénitentiaire, c'est... N'importe qui peut écrire n'importe quoi dedans, une intuition, une info, un vague truc qu'il a observé à un moment, ça va se transformer en réalité. Ça va se transformer en étiquette pour les gens qui les subissent. Donc là, on voit que ça justifie un placement dans ces quartiers, placement qui peut durer très longtemps, qui peut être extrêmement stigmatisant. Et en plus, on voit bien dans ce qu'il raconte, les conditions dans ces quartiers, elles sont apparentées à de l'isolement, quartier d'isolement, dont on sait que c'est des quartiers de torture, avec des galères de promenade, très peu de promenade, très peu contact avec d'autres prisonniers. Et en plus, ce que Salim a l'air de dénoncer, c'est qu'en fait, on met les gens ensemble parce qu'ils sont... Enfin, on leur empêche presque tout contact, mais on les met quand même quelques-uns ensemble parce qu'ils sont radicalisés, soi-disant, selon l'administration. Et ensuite, on va leur reprocher de s'être fréquentés en disant « Vous voyez bien, c'est des fous dangereux, ils traînent ensemble en plus alors qu'on les a obligés à être ensemble. »
Ouais, c'est exactement ça. Le but de ces quartiers, soi-disant, c'est d'être isolé du rêve de la détention. Mais en fait, du coup, c'est ce que Salim il raconte en fait via ce communiqué. C'est qu'en fait, une fois que c'est sa situation à lui, en fait, justement, une fois que l'on t'étiquette comme radicalisé, en fait, c'est fini. En fait, que tu parles aux experts, en fait, si tu leur parles et que tu leur dis que t'es pas radicalisé, en fait, tu caches ta radicalisation. Et en fait, quand tu parles pas, ben, en fait, on sait très bien que, et c'est le cas de Salim. Salim, c'est pas quelqu'un qui s'est laissé faire. Il a, en fait, à partir du moment, en fait, on lui a, en détention normale, donc on lui a donné ses binômes de soutien, qui sont donc des binômes censés évaluer la potentielle radicalisation des détenus, qui sont les premiers, en fait, un peu jalons du parcours que te fait passer par l'administration pénitentiaire sur les sujets de radicalisation, de radicalité. Et ben à partir de ce moment-là, lui, il a dit « Non, en fait, je ne veux pas, je ne parlerai pas de mon rapport à l'islam avec ces gens, je ne veux pas, en fait, leur parler, c'est privé. » Voilà, il s'est toujours défendu, justement, mais il n'avait pas envie, en tout cas, d'entrer dans ce cercle de la justification. Et en fait, ils ont du coup rien, il n'y a pas de rapport d'aucun expert, parce qu'à chaque fois, il a donc depuis ces fameux binômes de soutien, mais ensuite donc le QER, ensuite l'isolement, ensuite le QPR, il n'a plus jamais en fait répondu aux soi-disant experts. Et peut-être pour revenir un peu sur, en fait, une fois que tu es étiqueté en tant que radicalisé, en fait, il y a une stigmatisation ce que lui et ses proches racontent, c'est vraiment une stigmatisation en fait en tant que personne musulmane intérieure, notamment quand il arrive, il est en transfert à ce moment-là, il arrive et en fait on lui dit, il y a un maton qui lui dit encore un bâtard de barbu à son arrivée au transfert, ou alors par exemple on demande à sa femme en fait d'enlever son voile pour aller au parloir si elle veut donc avoir parloir, et ensuite aussi énormément d'insultes en fait à l'intérieur de la détention comme bâtard, bougnoule, bâtard de barbu, bougnoule, salbico, et aussi là récemment par exemple au Mita donc où il est depuis maintenant plus de trois semaines, on lui donne pas de papier toilette. Au début on ne lui donnait pas de papier toilette parce qu'on lui disait mais en fait t'es un musulman, toi tu trains un salaud, enfin, les matrons lui disaient t'as pas besoin de papier toilette. On voit la même hygiène en fait de base, et donc là ils lui en donnent, mais vraiment ils coupent en fait des toutes petites parties de papier toilette, ils ont le rouleau et voilà, ils coupent une toute petite partie, ils lui donnent, on finit par lui donner, mais en tout cas voilà, c'est aussi tout ça en fait qu'on vit à partir du moment où on est catégorisé, bah, déjà musulman à l'intérieur de la prison, on sait que c'est compliqué, mais et du coup voilà, quand on est aussi étiqueté comme radicalisé à l'intérieur, quoi.
Ouais, et sachant que là, on le voit un peu au travers de ce communiqué. Donc, au-delà de cette stigmatisation, bon, on voit bien, les matons, comme plein de gens en dehors aussi, ils se lâchent complet sur leur racisme. En plus, c'est bien l'ambiance du moment, donc c'est open bar pour eux. Puis, en plus, c'est en milieu clos. Ils s'attaquent quand même à des gens qui ont été isolés par l'administration pénitentiaire sous prétexte qu'ils seraient radicalisés. Et une fois qu'ils sont isolés, bah, les surveillants, qu'ils soient plus ou moins faf ou pas, ou juste un peu débiles ou méchants, bêtes et méchants comme plein de surveillants, ils se lâchent contre eux parce qu'en plus, ils sont face à des gens isolés. Et en plus, on voit à travers le communiqué d'autres infos qu'on a vues sur Internet sur le QPR de Aix-Luynes aussi. On voit un peu c'est quoi les conditions dans ces quartiers. Donc normalement, ce qui est affiché, mais moi je n'ai toujours pas compris ce que c'est qu'ils suivent un programme de déradicalisation. Donc j'imagine que c'est n'importe quoi fait par des gens qui n'y connaissent rien et que ça sert à rien et que voilà, à part à enfoncer les gens ou je ne sais quoi. Mais ils suivent un programme de déradicalisation, c'est vrai qu'on aimerait bien savoir ce que c'est. Mais par ailleurs, ce qui caractérise surtout ces quartiers, c'est l'isolement, comme on a dit. On le voit, les mecs, ils sont tout seuls, ils sont dans des toutes petites unités. Ils se voient pas, c'est selon l'arbitraire de l'administration et des surveillants. Ils ont très peu de promenades, donc très très peu de sorties à l'air libre. Des promenades dans des cours de type quartier d'isolement, parce que par exemple blindé de barreaux au-dessus, enfin où tu vois pas le ciel au travers. Donc ça, c'est pas du tout les cours de promenade normales qui déjà font pas rêver, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les fouilles à nu. C'est quand même, on rappelle que c'est un viol et que c'est, enfin, les prisonniers et les prisonnières qui le subissent racontent à quel point c'est un viol et que là, il est systématisé alors qu'il avait été de, ça avait été l'objet de luttes de prisonniers de faire en sorte que ces fouilles à nu soient moins fréquentes et moins systématiques. Là, il se les tape en permanence. Donc, par exemple, c'est quelque chose contre quoi les prisonniers du QPR d'Aix-Luynes ont protesté, qu'ils ont revendiqué un peu que ces fouilles à nu s'arrêtent ou se calment. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans ces quartiers? Bah, des conditions matérielles pas forcément bien. Et à Aix-Luynes aussi, des allumages nocturnes répétitifs. Donc ça, c'est quand même typique de la punition arbitraire de la pénitentiaire qui souvent s'applique à des gens considérés comme dangereux, d'allumer les cellules par exemple toutes les 2 heures la nuit, ce qui fait que ça réveille les gens et qu'au bout d'un moment, eh ben, ça rend fou en fait de se faire réveiller toutes les heures ou toutes les 2 heures la nuit par la lumière. Donc bah, ça existe en tout cas au QPR de Luynes. Donc on a vu là dans la presse et sur un site internet qui s'appelle Mars Info. On mettra les liens sur le site internet quand on publiera cette émission en podcast. Donc on a vu que les prisonniers du QPR de Aix-Luynes, depuis septembre, ils essayent de s'organiser pour protester contre leurs conditions de détention. Et bah là, ils se sont fait réprimer parce que toute organisation collective en prison est interdite et est l'objet de répression. Donc ils se font réprimer, mais quand même, on peut saluer le fait qu'ils s'organisent ensemble et qu'ils demandent au minimum que les fouilles à nu se calment, que les conditions de promenade soient un peu moins pires. Et que les donc ils protestent aussi contre cet allumage systématique la nuit. Et ce que je voulais rappeler aussi, dans ce qui est dit dans le communiqué en soutien à Salim, c'est par rapport à l'éloignement, qui est aussi un peu typique de certains quartiers spécialisés dans lesquels on va mettre les gens parce qu'ils seraient spécialement dangereux. Et ben ça fait qu'il est super loin de ses proches. Et donc bah, quand on est super loin de ses proches, on a moins d'accès au parloir, au moment pour se voir, etc. Et c'est extrêmement dur. Et c'est des choses qui font craquer les gens.
Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé bah, dans le cas de Samy, mais en fait, ce qu'on retrouve aussi, c'est ce qui se passe aussi notamment dans les QLCO, en fait, où le but aussi, c'est de faire souffrir les proches et pas que les prisonniers à l'intérieur.
Oui.
Et notamment dans le cas de Salim, en fait, du coup, il y a par exemple ces parloirs familiaux, du coup, comme il est au mitard, il n'a pas d'accès aux salons familiaux. Et en fait, là, dernièrement, ces parloirs, en fait, ils ne durent pas 45 minutes, mais ils durent seulement 40 minutes. Parce que, bah, il arrive en retard. Enfin, voilà, les surveillants, ils font exprès de rentrer sa famille en retard, enfin, de rentrer sa famille en retard. Donc, voilà, que des petites choses où, en fait, on vous grappille 5 minutes de parloir. Pour les gens, à l'extérieur, ça paraît rien. Mais en fait, quand vous faites des centaines de kilomètres pour aller voir votre proche, que vous savez qu'en fait, ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'il est au mitard avec des surveillants qui lui disent on va lui faire la misère. La pression psychologique que c'est pour lui et du coup par extension pour ses proches, ben en fait c'est très très vénère quoi. Et du coup oui, je voulais simplement rapidement revenir sur ce programme de radicalisation. Donc du coup on ne sait pas exactement de quoi il ressort vu que Céline il veut pas répondre aux questions, il veut pas en fait faire partie de ce programme et donc en fait c'est une raison pour lui faire la misère et peut-être pour un peu clôture, enfin un peu, c'est important, enfin là, dans ce communiqué, quand on avait commencé à l'écrire, en fait, Salim, il n'avait pas de robinet en cellule, il devait boire l'eau bouillante à même la douche. Et là, donc à force voilà, de réclamations, de demandes, en fait, ils ont fini la semaine dernière par lui donner un robinet. Et tout ça pour dire que c'est super important, en fait, que les gens à l'extérieur se mobilisent aussi, appellent la prison, en fait, disent qu'on connaît la situation de Salim au mitard de la santé. C'est pas simplement dans les petites geôles de la prison que ça se passe. Et donc, bah voilà, il faut que cette situation, elle cesse, tout simplement. Et qu'il se passe quelque chose. Et peut-être revenir sur la fonction des QPR et sur ce que Elsa t'a dit, c'est-à-dire qu'en fait, on ne s'insulte pas, enfin, toutes les conditions de détention qui sont à l'intérieur du QPR, qui sont en fait un quasi-isolement, en fait. Voilà, qu'est une torture blanche, en fait, des prisonniers. Et ben, en fait, on ne s'insurge pas, justement, parce que ce sont des terroristes, ce sont des personnes étiquetées radicalisées. Et en fait, ben, nous, ce qu'on rappelle à l'envolée, c'est que, justement, ces conditions de détention, en fait, elles visent à... On ne s'insurge pas parce que c'est... voilà, on a cette figure du dangereux terroriste et on ne va pas le défendre, en fait. Et du coup, ça leur permet de tester sur des gens des conditions de détention vraiment très hardcore qui vont ensuite finir par généraliser à l'entièreté des détentions d'une manière ou d'une autre. Et donc, bah, voilà, c'est aussi pour rappeler qu'il faut continuer, enfin, voilà, que ces gens-là, en fait, ont le droit de enfin, voilà, il faut qu'on continue de se mobiliser aussi pour les conditions de ces prisonniers à l'intérieur.
Ouais, carrément. Et donc, c'est aussi important de savoir ce qui se passe dans ces quartiers et comment les prisonniers les dénoncent ou leurs proches et se mobilisent. Et moi, je voulais préciser aussi que, en fait, ce qui est très fort, c'est que Salim, il refuse la logique de l'évaluation. Et nous, on voit depuis des années, là, cette logique qui est imposée par l'administration pénitentiaire de scruter, d'évaluer, etc., tous les gens de leur. Foutre la pression en les observant, en rédigeant des rapports complètement bidons pour te faire rentrer dans une case ou un autre, t'isoler les uns des autres, te classifier et te réprimer et faire un peu la carotte et le bâton, la carotte pour les uns, le bâton pour les autres, tirer à l'étage machin si t'es bien gentil et tout. Donc là, il a refusé cette logique et c'est fort et c'est dur de refuser cette logique. Bah, on voit le résultat quoi. Il ramasse bien, mais c'est fort d'avoir refusé. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est comme pour les QLCO, je trouve, les QPR, ça pose un truc de peur en détention. Enfin, ça risque de poser ce truc et c'est très dur de déjouer ça. Parce que, entre si je suis considérée comme liée de près ou de loin au trafic de stup ou d'avoir commis quelque chose en bande organisée, je risque de me retrouver au QLCO torturée. Ou si j'ai une pratique de l'islam qui est stigmatisée par les matons ou de toute façon qu'ils n'y comprennent rien, qu'ils vont me stigmatiser pour rien, dans tous les cas, ça crée un truc. On a toujours peur qu'un de ces nouveaux quartiers, enfin pas si nouveaux, de torture nous tombe dessus. Et ça crée une ambiance quand même vraiment rude, quoi. Donc c'est fort de s'y opposer et c'est important que de dehors on s'y oppose aussi.
Totalement. C'est pour ça que c'est important de relayer sa parole, parce que Salim, il sait, bah voilà, que ce qu'il vit à l'intérieur, justement, c'est dû au fait qu'il ne peut pas répondre. Et il sait aussi que, en fait, de pas être dans leur logique, et ben, en fait, il fera sa peine sèche, il n'y aura pas de possibilité d'aménagement, il n'y aura pas, enfin, voilà, il sait que voilà, de pas se plier à ça, en fait, c'est que ça va impliquer beaucoup, beaucoup de choses pour lui. Et bon, je pense que c'est très important de, bah voilà, le plus possible que vous pouvez, relayer ce communiqué. Et d'appeler la santé, en fait, ça paraît rien, mais en fait, ça les embête, et ça les embête vraiment. Parce qu'en fait, je le répète encore une fois, mais ils veulent pas qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, quand des prisonniers et quand des proches prennent le temps, en fait, de décrire ce qui s'y passe, et ben nous, à l'extérieur, il faut qu'on se fasse le relais de cette parole-là.
Ouais, carrément. On va lui souhaiter plein de force à lui et à ses proches, ça doit être vraiment pas facile. Donc on leur souhaite plein de force, de courage et de détermination.
Force. Et puis, il n'y a pas d'arrangement.
Bah ouais, et à suivre.
Enfin, à suivre. De toute façon, on continuera de donner les nouvelles quand on pourra.
Ok, salut, on va passer un peu de musique.
Atmosphère sécuritaire, les militaires siègent dans le RER et même le dernier des flics porte un revolver. Tout le monde flippe, de quoi personne sait. Leitmotiv, se méfier des barbus et ou des gens foncés. La police a les pleins pouvoirs, tu me crois pas? En cas de problème, essaie de te pourvoir en justice, juste pour voir. Régulièrement, les schtroumpfs reçoivent un cadeau de l'intérieur. Hier, le flashball et aujourd'hui, le taser. On calme les révoltés à coups de décharge électrique. Pas toute la répression se veut éclectique. Seul feu pour ma communauté, vengeance à tout prix et esquiver les faits. Autant que faire se peut. Pour eux, Nous avons le mal dans la peau, donc ils veulent nous la trouer. Et ils s'étonnent que l'on sente floué. L'Occident provoque la plupart des conflits et essaie de stopper ses ennemis à coups d'ADN, satellites et biométriques. Un peuple imberbe à l'épiderme immaculé. Ils se battent contre nos gènes, notre épiderme, notre pilosité. La mancam reste au programme. Sous couvert de protection du territoire, la xénophobie fait ses gammes. Imberbe à l'épiderme immaculé. Ils se battent contre nos gènes, notre épiderme, notre pilosité. La mancam reste au programme. Sous couvert de protection du territoire, la xénophobie fait ses gammes. Atmosphère sécuritaire. Moi et ma tribu, nous sommes tous tributaires de leur balle ou de leur tribunal. Je m'attribue les armes tribales, parce que je sais que leur envie de tester leur nouveau jouet sera bien plus forte que le code de procédure pénale. L'électricité au service des sévices, prodiguée par les XD sur les 10 mecs de cité. Tu parles d'un vice. Nos mères de famille sont pas prêtes d'avoir fini de pleurer leur fils. La liste est si longue qu'elle ne saurait être exhaustive. Certains frères à la vue des bleus préfèrent se jeter dans la Seine pourvu qu'ils les esquivent, quitte à y laisser leur vie. Radical comme choix, mais tout comme celui de nos chassés d'ici. La déesse t'éveille, de tout temps elle reste éveillée. Surveille nos faits, nos gestes, utopiques, notion de liberté. Malgré leur technologie, un facteur reste inchangé. Impossible de stopper un individu venu crever. Ils veulent un peuple imberbe à l'épiderme immaculé. Ils se battent contre nos gènes, notre épiderme, notre pilosité. L'amalgame reste au programme. Sous couvert de protection du territoire, la xénophobie fait ses gammes. Imberbe à l'épiderme immaculé. Ils se battent contre nos gènes, notre épiderme, notre pilosité. L'amalgame reste au programme. Sous couvert de protection du territoire, la xénophobie fait ses gammes. Atmosphère sécuritaire. De nos jours, ta carte de séjour ne te protège ni du karcher ni du charter. Bienvenue sur cette chère terre où l'amour de l'esclavage et les tours pour les sauvages opèrent au grand jour. On vit toute l'année sous vigie pirate écarlate et des sans cervelle rêve devant Nicolas et Carla. Impensable de vouloir autant faire la pluie et le beau temps. La menace est d'autant plus sérieuse qu'on vient de rejoindre l'OTAN. Ils pensent peut-être que les pertes seront unilatérales.
Ok, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission L'Envolée sur Radio Fréquence Paris Pluriel en région parisienne et sur de nombreuses autres radios associatives en France. Cette émission est diffusée le vendredi 26 juin et on va enchaîner sur un thème un peu délicat mais dont on voulait parler de toute façon depuis longtemps. On voulait parler de... En fait, ça fait longtemps qu'on a envie de lancer des discussions sur les arguments pour pénaliser et enfermer les violeurs, les hommes violents, etc., les pédophiles. C'est des sujets qui sont compliqués, mais c'est des sujets qui sont super importants pour nous, parce qu'on pense que la prison ne nous sauvera pas du patriarcat et ne nous protégera pas des violeurs et des violences qu'on subit quand on est une femme, un enfant, une personne minorisée. Mais c'est un sujet délicat. Et là, bah, ce qui a été appelé l'affaire Liana, malheureusement pour cette pauvre petite, ça a relancé toute une séquence dans les médias qui était une séquence d'appel à beaucoup plus de répression, beaucoup plus de pénalisation, tout un délire sur le fait que la justice serait laxiste. Et on s'est dit que ça valait le coup d'en parler. Voilà. Donc on est avec Gabriel. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Salut. Eh ben ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et non, je veux pas forcément rajouter quelque chose, si c'est dire que c'est sûr que c'est notamment par là qu'il y a tous les mots de la fuite en avant un peu sécuritaire et autoritaire qui sont d'habitude tenus dans la bouche des ministres et des préfets de police ou des flics qui en fait se retrouvent un peu tenus dans la bouche de tout le monde, voire les premières victimes habituelles du harcèlement policier et des dérives autoritaires, quoi.
Ouais, carrément. Et sujet, ça tombe bien entre mille guillemets, parce que aujourd'hui, en fonction du temps qu'on a, on a envie de vous passer un peu des paroles de personnes qui sont concernées par le viol et l'inceste, qui en ont subi, et qui disent qu'elles ne réclament pas de l'enfermement pour leurs bourreaux, leurs oppresseurs, parce que c'est pas ça la solution. Donc ça, on vous en passera des extraits en fonction du temps qu'on a. Mais pour commencer, on voulait commencer par une lettre qu'on a reçue. C'est une lettre des détenus du QLCO de Condé-sur-Sarthe qui s'adresse au ministère de la Justice. Donc le QLCO, on en a déjà parlé beaucoup, c'est ces prisons ultra sécuritaires qui sont réservées soi-disant aux plus gros narcotrafiquants. Et on en a énormément parlé, c'est des lieux où les gens sont torturés et leurs proches par la même occasion. Et c'est très intéressant qu'on ait reçu une réaction à toute cette affaire qui a été toute cette affaire autour du meurtre et du viol de Liana. C'est très intéressant et c'est assez touchy, c'est un peu délicat. Donc on va lire la lettre et on remercie vraiment les personnes qui nous l'ont envoyée. On va lire cette lettre et après on en discutera. Lettre des détenus du QLCO de Condé-sur-Sarthe au ministre de la Justice. Le 8 juin 2026. Monsieur le ministre, vendredi 5 juin 2026, la France entière apprenait avec stupeur que le corps découvert la veille est celui de la petite Liana, qui avait été lâchement enlevée par un prédateur sexuel en liberté. Après la stupeur, viennent l'amertume et la colère. Car une fois de plus, un enfant est enlevé, violé et tué par un pédophile. On apprendra par la suite qu'il n'en était pas à son coup d'essai. Vous et votre ministère portez l'entière responsabilité de ces faits. À vouloir faire de la politique politicienne à des fins personnelles et électorales, à faire constamment campagne contre le « narcotrafic » entre guillemets, au détriment de choses bien plus graves et importantes qui se passent dans notre société, comme toutes ces agressions sexuelles sur des pauvres enfants innocents. Au lieu de fanfaronner sur les 5 millions d'euros investis dans deux prisons de haute sécurité qui existaient déjà, pour y enfermer 140 détenus sur les 88 000 qu'il y a en France, vous devriez rendre des comptes aux Français quand de tels faits se produisent et prendre vos responsabilités sans vous dérober en essayant de chercher un coupable, car le coupable, c'est vous. Vous êtes coupable par la pression que vous mettez sur les magistrats pour que la justice soit uniquement et constamment orientée contre le trafic et la criminalité organisée. Vous êtes coupable de prétendre qu'il n'est pas normal que des violeurs puissent se retrouver en liberté, alors que votre ministère fait en sorte que tous ces lâches de pédophiles, violeurs et tueurs d'enfants soient bien lotis dès lors qu'ils sont enfermés. Contre eux, il n'y a pas de répression. Ils savent qu'ils sortiront bien vite de prison et pourront recommencer à commettre les mêmes crimes, sans pression, avec pour excuse des impulsions liées à une maladie imaginaire. Vous êtes coupable, puisqu'en prison, tous ces violeurs ont la possibilité de travailler, de bénéficier de remises de peine, d'avoir des parloirs pour assouvir leurs désirs sexuels en unité de vie familiale, alors même qu'ils ont commis l'irréparable. Vous êtes coupable de faire semblant de ne pas savoir qu'il puisse exister en France un si grand laxisme judiciaire en matière de crimes sexuels. Qu'est-ce qui est le plus important ? La lutte contre le trafic ou celle contre la pédocriminalité qui tue, viole nos enfants sans scrupules ni état d'âme ? Vous êtes coupable d'hypocrisie envers les Français lorsque vous dites publiquement que la justice manque de temps pour traiter tous les dossiers liés à la pédocriminalité, alors que vous vous félicitez d'avoir en un temps record créé des prisons de haute sécurité et isolé 140 détenus par de nombreux transferts qui ont mobilisé des milliers de fonctionnaires et de magistrats pour les procédures administratives rendues nécessaires par cette mesure. Tout ça en déshumanisant ces 140 détenus, en les empêchant de serrer leurs proches dans leurs bras au parloir, en mettant un terme à toute possibilité de réinsertion pour eux par la suppression de toutes les remises de peine, aménagements et permissions de sortie, permettant de préparer l'insertion dans le monde extérieur. Vous êtes coupable de ne pas traiter ces délinquants sexuels en prison de manière coercitive et répressive, sans aucune indulgence, car eux ont accès à des activités telles que la pêche et la pétanque, et peuvent travailler à des postes dits sensibles en détention, accéder aux UVF et j'en passe. Ce sont eux qui devraient être privés de travail, de relations avec leurs proches et de relations sexuelles.
Vous êtes coupable de vous vanter auprès de l'opinion publique de faire une priorité au trafic et de la criminalité organisée et de délaisser le reste. Au lieu de vouloir faire des lois toujours plus répressives sur cette criminalité organisée, de vouloir construire toujours plus de prisons sécuritaires qui s'avèrent complètement inefficaces, car la criminalité ne cesse d'augmenter en France, malgré votre acharnement, dont le seul but est électoral, pour récolter le suffrage des sympathisants de l'extrême droite, pour, ne pas les citer, commencer donc par vous occuper de la sécurité des enfants qui ne demandent pas à se voir violer et voler la libre insouciance de la jeunesse par les détraqués sexuels en liberté ou encore enfermés mais qui viendront à être remis en liberté bien trop rapidement après des condamnations beaucoup trop légères. Vous faites preuve d'un culot inégalable, vous avez présenté des excuses publiques à des millions de Français alors que vous êtes le seul responsable de la politique judiciaire actuellement appliquée par les magistrats français. Si seulement les Français pouvaient savoir comment sont traités les violeurs et tueurs d'enfants, la manière dont ils sont biberonnés, ils sont bichonnés en prison par l'administration pénitentiaire, et ça fait bien longtemps qu'il y aurait eu une révolte du peuple et un appel à votre démission. Rendez-vous compte, 5 millions pour isoler 140 détenus. Si tous vos efforts pour lutter contre la criminalité organisée s'étaient portés contre ces monstres prédateurs qui mériteraient, au-delà de la castration chimique, la pendaison, et je pèse mes mots, de tels faits ne seraient pas si courants. Monsieur le ministre, vos excuses n'effacent pas le chagrin et la douleur des familles. Prenez donc des mesures d'urgence, comme vous n'avez pas hésité à le faire contre la criminalité organisée. Annoncez donc la construction des prisons de haute sécurité pour ces gens-là, avec un régime dur. Malheureusement, nous ne sommes pas dupes. Vous savez aussi bien que nous que les choses ne changeront pas, car il n'y a pas de volonté de changer de votre côté. Habité par vos ambitions politiques, vous préférez tirer à bout portant sur la racaille, comme on dit dans votre parti, pour faire monter la peur chez les Français, pour promouvoir votre politique, pour tenter de justifier des graves erreurs et dysfonctionnements qui ont été constatés et qui ont abouti à ces drames.
Ouais, voilà, donc c'est fini pour cette lettre qui nous a été écrite depuis le QLCO de Condé-sur-Sarthe. On vous remercie pour cette lettre. Et on voulait en discuter un petit peu parce que il y a des choses qu'on comprend fort, qu'on partage beaucoup et qu'on trouve super important qu'il soit dit. Et puis il y a des choses avec lesquelles on est moins d'accord et c'est un peu important de pouvoir lancer le débat. Donc déjà, il faut rappeler que cette lettre, elle s'adresse à un ministre. Quand il a été mis en poste en tant que ministre de l'Intérieur, il était accusé de viol, si vous vous souvenez bien. Ça n'a pas empêché le gouvernement de nommer un ministre accusé de viol, qu'il ait été coupable ou non. On sait de toute façon que les hommes de pouvoir, quand ils sont accusés de viol, souvent ils s'en sortent beaucoup mieux que les galériens, curieusement. Mais en tout cas, cette nomination, déjà à la base, elle nous montre que le gouvernement, il n'en a pas grand-chose à cirer des gens qui sont violés, en fait. Ça, c'est pour poser le truc. C'était déjà un affront et un crachat à la figure de toutes les personnes qui subissent ce genre de choses. Donc, on ne peut pas trop s'étonner que ce genre de ministre, il ne se sente pas vraiment concerné, en fait, par tout ça. Voilà, ensuite, après, il y a quelque chose dans cette lettre qui est dit et qui ressort souvent dans des discussions qu'on a avec des poteaux enfermés, c'est qu'effectivement, on nous raconte souvent qu'en prison, ceux qui sont appelés par les autres prisonniers, les pointus, les pointeurs, sont beaucoup mieux traités que le reste de la population carcérale. Alors ça, ça demande... je veux bien le croire. Ça demande à être discuté quand même, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui morflent grave en prison s'ils sont étiquetés pointus et qui passent des années à l'isolement, et l'isolement, ça détruit. Mais ceci dit, effectivement, je pense que c'est vrai, en tout cas c'est ce qu'on nous a beaucoup raconté, que des gens qui sont en prison pour avoir maltraité des enfants, des femmes ou des personnes minorisées, souvent, c'est pas eux qui morflent le plus. Et en plus, ils sont plutôt bien traités par l'administration pénitentiaire parce qu'en fait, c'est des gens qui mouffent pas et qui, en plus, vu qu'ils sont super mal vus par plein d'autres prisonniers, voire un peu en danger, ils cherchent la protection de l'administration pénitentiaire. Enfin, c'est tout un jeu un peu malsain qui fait aussi que ces personnes, effectivement, semblent beaucoup mieux traitées que pas mal d'autres prisonniers. Et que ça alimente une rancœur, en fait. Et effectivement, à un tel point qu'on voit ce qui est dénoncé dans cette lettre, c'est tellement vrai, c'est que des gens qui sont juste étiquetés d'avoir participé de près ou de loin, ou suspectés d'avoir participé de près ou de loin à du crime organisé, vont subir des conditions de détention qui sont vraiment de la torture. Et en fait, ça les rend ouf en se disant, bah, il y a des gens, en fait, ils ont tué des enfants, ils ont violé des femmes, ils ont tabassé leurs femmes. Et eux, ils sont entre guillemets beaucoup plus tranquilles que nous.
Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est sûr que même d'un point de vue presque plus électoraliste, même si c'est pas très intéressant de rentrer dans ça, on peut dire que c'est vrai, Gérald Darmanin sur tous les postes qu'il a acceptés, il s'est toujours défaussé notamment de ses responsabilités et on peut être d'accord sur le constat qui est fait, du moins pas sur les solutions proposées, attention, mais sur le constat qui est fait et sur la dureté de et sur la dureté de l'enfermement. Sauf que moi je reste un peu convaincu en lisant cette lettre que il y a deux choses qui sont opposées et qui sont pas forcément si opposées. Je sais pas ce que tu en penses, mais enfin, pour une partie des Français notamment qui auraient cette pulsion sécuritaire, c'est vraiment tout l'appareil carcéral que les gens demandent à renforcer, quoi, et pas seulement des petits points, quoi, et jouer sur des carences qu'il y aurait dans l'enfermement de certains. Je pense que, je sais pas, je suis vraiment très très partagé sur ça.
Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, bah déjà, en vrai, on va reprendre l'expression d'un ancien prisonnier qui disait « Je ne souhaite pas la prison, même à mon pire ennemi, parce qu'il sait que c'est une torture et que l'enfermement ne résout rien. » Enfin, l'enfermement, ça arrange l'État, quoi, et l'ordre établi, c'est tout. Donc, bah nous, c'est pareil, on ne souhaite pas la torture, on ne souhaite pas l'enfermement, ni l'isolement, ni la peine de mort à personne. Parce que déjà, bah, on sait que c'est des tortures énormes. Et en plus, on sait que ça ne règle pas les problèmes en question. C'est juste qu'on va prendre un bouc émissaire, on va lui faire ramasser, on va lui en mettre plein sa gueule. Un violeur par-ci, un pédophile par-là, on va lui en mettre plein sa gueule. Un mec qui a tapé sa femme, je sais pas. On va le défoncer. Et en fait, le problème social qui est derrière, on va pas le régler. Donc en fait, c'est une forme de vengeance. Genre, on se venge, on se défoule sur quelqu'un, mais on questionne pas en fait le problème social qui est beaucoup plus profond. Par exemple, pour moi, les violeurs, les gens qui violent des enfants, qui tabassent des enfants, qui tabassent leurs femmes, ou qui tabassent des femmes, ou qui en fait exercent des violences contre quelqu'un parce qu'il est plus faible qu'eux, en fait, plus vulnérable qu'eux à un moment donné, ou considéré comme tel, pour moi, c'est pas des criminels, c'est des oppresseurs. Et c'est contre un système d'oppression qu'on doit se battre. Alors c'est des grands mots, mais c'est vraiment vrai qu'on doit se battre au quotidien. Et en fait, demander la justice et demander à l'État de régler nos problèmes, ça les réglera pas. Alors attention, hein, quand on dit ça, on dit surtout pas qu'il faut pas porter plainte, que ceci, cela. C'est pas une posture idéologique. En fait, on fait ce qu'on peut comme on peut avec ce qu'on a et les moyens qu'on a quand on est en danger, quand on est oppressé. On agit avec les armes qu'on a. Et les outils qu'on a et les moyens qu'on a. Mais, donc c'est surtout pas pour dire les gens qui portent plainte, c'est pas bien et tout, mais c'est pour dire en soi, au fond, on sait que au final, c'est pas la prison, la police et la justice qui vont nous protéger de ces personnes violentes. Parce que ces personnes violentes, elles sont. Il y en a partout. Elles sont près de nous. Même. Je suis désolée, mais même vous les mectons qui faites les gros bras et qui voulez défoncer du violeur, bah peut-être bien que pas loin de vous, vous avez un pote qui a déjà violé, vous avez un pote qui tabasse ses enfants ou qui leur fait peur. Vous voyez, c'est questionner tous ces mécanismes qui nous semblent beaucoup plus importants, questionner les moyens de l'autodéfense, etc. Enfin, c'est compliqué, mais ça nous semble beaucoup plus important que de réclamer de la prison, de l'enfermement, de la torture, de la peine de mort, parce que comme tu disais, c'est sûr, ça on l'a vu et on le voit, plus il y a de la prison, plus ça menace tout le monde en fait. Et évidemment que si Retailleau et compagnie et tous les fachos, ils arrivent à obtenir la peine de mort pour les gens qui ont tué des enfants, évidemment que la peine de mort, elle va s'étendre ensuite. Et ça va être une menace sur nous tous.
C'est clair, et on le voit d'ailleurs dans la première réaction que le Cornu, donc le Premier ministre, a eu à l'Assemblée nationale juste après les manifs qui ont suivi et la marche blanche. Il a annoncé plus de prisons pour tout le monde en fait. Il a commencé par le sujet actuel, c'est-à-dire les pédophiles et les violeurs. Après, il a déroulé son agenda classique qui concerne de plus en plus de monde. C'est ça aussi la réalité. Et d'ailleurs, je trouve, et attention, ça se sépare, moi, en tout cas, mon propos se sépare de la lettre du QLCO, où ce qui est dit et les conditions sont totalement abominables, et l'idée, c'est pas de dire que cette lettre sera contre son camp ou quoi, enfin, en tout cas, dans mon esprit, ça se sépare totalement. C'est aussi d'expliquer que là, ce qui se passe, c'est que les solutions répressives se diffusent de plus en plus dans la société. Et c'est vraiment un problème. Et c'est fait au détriment notamment d'associations de parole des victimes. Et là, dans ce cas-là, qui pour moi, à mon sens, est la première chose, la parole des enfants. La prise en compte de la parole des enfants a été reléguée au second plan contre l'enfermement. Et ça, quand même, ça devrait collectivement tous nous interroger, l'inversion qu'il y a eu par ce truc répressif. Et au passage aussi, pouvoir dire que le ministre dise qu'il veut plus de prison pour tout le monde, c'est aussi, et ça veut dire que ça banalise les conditions, on le sait, surtout sur les quartiers pour hommes où il y a souvent plus de 200% de remplissage très largement dans pas mal de prisons. Ça veut dire qu'on banalise les conditions inhumaines et que, au nom de ça, on est OK pour laisser plus de gens en prison et plus de ce qu'on appelle la surpopulation carcérale, quoi.
Ouais. Et aussi, je voulais revenir, on a beaucoup entendu, suite au meurtre de Liana, on a beaucoup entendu de discours sur le laxisme de la justice et sur son manque de moyens. Alors ce laxisme, il est quand même tout à fait relatif. Quiconque subit la justice, et surtout par les temps qui courent, sait qu'elle n'est pas hyper laxiste. Comme c'est très bien dit dans la lettre, la justice, elle peut aller très vite. Les moyens de la justice et de l'administration pénitentiaire, quand ils veulent, ils en mettent direct. Et quand ils veulent pas, ils en mettent pas. Et il y a des... On a quand même entendu à la radio des associations de personnes qui ont subi des violences et des magistrats aussi qui traitent particulièrement ces dossiers-là, qui sont des gens avec lesquels, bon, je serais pas d'accord sur le fait qu'eux, ils veulent pénaliser, mais n'empêche, toutes ces personnes disaient qu'elles avaient même reçu des circulaires du ministère où on leur disait « il faut mettre en priorité la criminalité organisée, les désordres dans les manifestations ». En fait, c'était que des trucs pour maintenir l'ordre et la sécurité, pour stigmatiser la criminalité organisée et la faire morfler. Et vraiment, on n'a pas donné de, ils n'ont pas donné de moyens aux personnes qui traitent les questions de violence sur les enfants. Et c'est clair. Ça, c'est sûr que c'est vrai. Mais par contre, la justice n'est pas laxiste en général. Parce que quand il s'agit d'aller attraper un galérien, souvent racisé, étranger, sans papier, parce que quelqu'un a porté plainte contre lui pour des violences, qu'elles soient sexuelles, sexistes, etc., il va être attrapé, il va tout de suite partir en comparution immédiate. On en a souvent parlé. C'est des personnes qui vont remplir les prisons. Depuis qu'il y a eu une soi-disant prise de conscience sur les violences conjugales, Les galériens qui ont tabassé une femme, c'est des connards, c'est clair, c'est des ordures, c'est des pourris. Ils remplissent les prisons, en fait. Et ils remplissent les centres de rétention administrative. Et en fait, quand on a subi personnellement les violences de quelqu'un, de ces personnes, quelles qu'elles soient, bah, on n'a pas forcément envie que ces personnes, elles aillent en prison, en CRA et qu'elles soient expulsées. C'est pas ça dont on a besoin. Mais en fait, la justice et la police, ils demandent jamais, jamais, jamais aux personnes qui ont subi des violences ce dont elles ont vraiment besoin pour se reconstruire, pour se sentir protégées et tout. Et on connaît, quand on connaît les histoires, on sait qu'en général, la police et la justice, ils n'ont pas les moyens de nous protéger. Donc, faut pas trop compter sur eux, parce que de toute façon, malheureusement, ils ont très peu de moyens pour nous protéger. Même si on les aimait bien, on pourrait bien se dire, de toute façon, ils n'ont pas les moyens, faut que je me démerde autrement.
C'est clair. Ouais, enfin, je suis tout à fait d'accord. Et il y a vraiment eu une urgence, entre guillemets, à sortir ce discours qui, à la fin, enfin, vient à se retourner presque dans ce cas-là contre les premières victimes qui sont les enfants, quoi. On l'entend tout le temps dans la bouche des gens. En fait, à quoi amènent ces discours? Ça amène au choc d'autorité, ça amène à la hiérarchie, ça amène à plein de valeurs et de mots qui dans ce cas-là, ne protégeront pas les premières victimes. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais
Ouais, bah ouais.
le cercle vicieux qui s'enclenche avec le fait de demander plus de répression, c'est vraiment pas celui-là. Et après, je comprends aussi que il y a une volonté assez claire de demander des comptes au ministère de l'Intérieur, qui est au ministère, il a tellement fait tous les postes qu'on ne sait plus où il est, au ministre de la Justice, qui est quand même le premier responsable dans ce moment-là, mais.
Ouais, et puis on comprend carrément, parce qu'en fait, en vrai, c'est ce qu'on partage, en tout cas, c'est ce que moi je partage. On comprend, mais tellement fort, ce qui est écrit dans cette lettre qui nous a été écrite du QLCO, que quand en fait, on ramasse super fort en prison, nos proches ramassent super fort, on est vraiment dans des on est vraiment déshumanisé à un stade, ou même on l'a beaucoup décrit à cette antenne, mais c'est impossible de décrire à quel point. Certaines personnes, dont les gens qui sont au QLCO et leurs proches, sont déshumanisées, et leurs enfants, on comprend quand on est dans cette situation, on est carrément le seum de voir que des gens qui commettent des horreurs, eux, sont tranquilles. Parce que c'est clair que l'impunité, entre mille guillemets, elle existe vraiment. Il y a des gens qui violent, qui tabassent et qui sont tranquilles, quoi. Donc c'est sûr qu'on comprend que depuis le fin fond d'un QLCO, on est la mort. Et franchement, c'est pour ça que même si on n'est pas d'accord sur tout et qu'on avait envie de lancer un peu des débats, on espère que vous entendrez, mais on n'est pas vraiment sûr que vous puissiez, mais on avait envie de lancer ces débats parce que ça nous semble important. Et en tout cas, on vous remercie vraiment d'avoir écrit cette lettre. On va lui donner un peu de la voix. Et surtout, on adresse toutes nos pensées, un gros big up aux prisonniers des QLCO qui sont en lutte, qui sont mobilisés et à leurs proches. Et ce qu'on va faire un peu pour appuyer ce qu'on a dit, c'est que en fonction du temps qui reste là dans l'émission, on va diffuser un peu des paroles qui sont pas les nôtres et qui reviennent un peu sur des choses qu'on a dit ou qui touchent sur des points qu'on trouve importants sur toute cette question de faut-il emprisonner les violeurs? Est-ce une critique de la réponse pénale à l'inceste, etc. Et ce qu'on voulait rappeler aussi, c'est que la prison et l'enfermement et la justice, c'est aussi violent contre les femmes et les enfants. En prison, on maltraite des femmes, des enfants, des personnes minorisées. Voilà.
Tout à fait d'accord. J'ai plus rien à rajouter.
Ok. Voilà, pour poursuivre ces discussions, ce qu'on avait envie, c'est de vous passer, de vous faire écouter un peu quelques sons de gens qui sont concernés et qui parlent de toutes ces questions. Donc, notamment des personnes qui sont enfermées et qui critiquent l'enfermement des violeurs. et aussi des personnes qui ont subi inceste et violence et qui critiquent l'enfermement ou en tout cas le recours au tout enfermement, la peine de mort, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter, je vous dis dans l'ordre ce qu'on va écouter, on va écouter un texte qui s'appelle « Deux ou trois choses sur l'inceste » qui a été écrit par des féministes anticarcérales concernées par l'inceste et qui l'ont lu le 8 mars 2021 dans une manifestation du 8 mars. Voilà, on va écouter un son qui m'a touchée, que j'ai piqué sur Instagram, sur le profil Instagram d'Aurélien Béliard. Voilà, donc même si je ne pense pas comme lui que la justice puisse réparer les victimes, mais quand même ce qu'il dit c'est super important et c'est une parole directe de personnes concernées, c'est important. Ensuite, on va écouter un extrait d'une chronique de comparution immédiate de la Sellette, qui est quand même un bon exemple du fait que la justice, en fait, son kiff, c'est pas de réparer les victimes, les personnes qui ont subi des violences, ni de les écouter, ni de les protéger, ni de leur demander ce qu'elles ont besoin, c'est d'enfermer les gens, et surtout quand c'est des galériens. Et enfin, on écoutera vraiment la fin d'une lettre de Maïté et Marina, qui sont deux prisonnières qui ont beaucoup écrit à l'envolée et qui ont fait beaucoup de prison et qui ont beaucoup parlé de ce qui se passait dans les détentions, qui étaient les femmes en prison, qu'est-ce qu'elles subissaient, avec une critique sociale qui nous a toujours beaucoup intéressés. Voilà, donc je vous laisse écouter tout ça. Et le premier extrait qu'on va écouter, c'est extrait du livre du CAP. Le CAP, c'était le comité d'action des prisonniers qui, dans les années 70-80, donc c'était des prisonniers et prisonnières qui ont pris la parole contre la prison et qui ont bougé dans les prisons. Et là, c'est des extraits qui relatent un gros débat qu'il y a eu pendant quelques années parce que c'était au cœur des mouvements féministes pour la pénalisation du viol. Et ces personnes qui étaient contre la prison, les personnes du CAP, ont essayé de réfléchir à la fois contre le viol, tout en gardant leur posture contre la prison, parce qu'elles voyaient bien que ce n'était pas du tout une solution et elles n'étaient pas super contentes que le mouvement féministe prenne cette orientation-là, super pénaliste. Et c'est ça aussi que nous, on voulait dire, c'est que jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait quand même un peu un questionnement sur est-ce que la prison sert vraiment à nous protéger du viol et des violences sexistes, sexuelles. Et maintenant, on a l'impression que c'est même plus une question qui se pose. La question, c'est plus à quel degré on va torturer les violeurs, quelques monstres, quelques boucs émissaires, pour ne surtout pas régler le problème du viol et des violences sexistes et sexuelles, qui est un problème systémique, qui est un problème social, qu'on doit régler en dehors des prisons. Bonne écoute.
Je vais vous lire plusieurs extraits du texte « Faut-il emprisonner les violeurs ?» tiré du livre « Liberté sur parole » de Louis Soulier sur l'histoire du comité d'action des prisons. Le rôle de la justice. Les femmes du comité d'action des prisons de Fresnes ne reconnaissent à l'institution judiciaire aucune légitimité pour résoudre ce problème. Le viol est une maladie sociale et ce n'est pas la justice qui débarrassera notre société de cette maladie. Car, contrairement aux multiples autres formes de non-consentement, la justice se préoccupe du viol. Le code pénal en a même fait un crime passible de la cour d'assises. Mais la justice, elle, prétend guérir le viol en enfermant le violeur dans une prison, en faisant porter au violeur, à un individu isolé, tout le poids des conséquences de cet acte, inadmissible, et c'est là que nous sommes plus d'accord. L'accusé de viol serait ainsi un bouc émissaire bien facile, évitant toute remise en cause d'une société qui, par son éducation et son organisation, produit de tels gestes. La justice serait donc là, afin de produire un écran de fumée en individualisant un acte. Jacqueline Knobelspies, désolé si j'écorce le nom, répond elle aussi de sa prison aux militantes féministes. Elle confie avoir été victime d'un viol, mais ce ne se reconnaît pas du tout dans leur campagne. Loin de faire quelconque apologie du viol, je me déclare non solidaire à part entière de ces femmes qui disent « Nous ne venons pas devant la justice pour faire condamner un violeur, mais pour essayer de briser les 220 000 viols commis actuellement en France. » et qui prétend, sous la baguette orchestrale du chef Gisèle Halimi, revendiquer le caractère dissuasif de la répression contre les violeurs. Pour elle, les féministes pratiquent un double langage. Elles ne sont pas animées par un esprit de justice, mais par la vengeance. Personne ne les croit. Elles amènent un accusé devant une machine, la machine fait son travail répressif, etc. Et, bien qu'elles s'en défendent, elles ont parfaitement l'esprit de vengeance. Elles disent avoir une soif de justice, alors qu'elles n'ont que soif de vengeance. Elles disent « Nous combattons, nous, féministes, pour l'abolition de la prison », et elles y envoient régulièrement des hommes pour un total d'années effarant. Les sentiers tortués d'un tel raisonnement m'échappent toujours, comme il est vrai que la prison est là pour rassurer les imbéciles, les débiles, qui s'imaginent encore être protégés par les flics, par des flics, des procès aux lourdes sentences et des murailles. Jacqueline Knobelspice met en garde les féministes quant à la récupération de leur campagne par le pouvoir et son articulation avec le renforcement d'une idéologie sécuritaire. Vous faites de la menace du viol un prétexte supplémentaire à une extension déjà effective de pouvoir répressif. Vous acheminez benoîtement avec le pouvoir en renforçant de belles façons la dramatisation de l'insécurité dans un climat déjà saturé par une bonne orchestration du phénomène. Les mouvements féministes qui ont lancé cette campagne pour la criminalisation du viol se sont trompés de perspective et ils ont cédé au rituel du sacrifice du bouc émissaire en permettant à l'institution judiciaire de transformer chaque histoire en mythe avec un coupable qui a mis en cause l'ordre des choses. Donc, source de désordre pour une communauté. Seule la mise à mort symbolique d'une victime, de son éducation, de sa condition. C'est ce que le rituel du procès doit marquer à tout prix. Son élimination évite une remise en cause plus large.
Deux ou trois choses sur l'inceste. La récente publication d'un roman autobiographique dénonçant l'inceste, La Familia Grande de Camille Kouchner, commis par Olivier Duhamel, a replacé l'inceste sur la scène médiatique, tant dans les médias traditionnels que sur les réseaux sociaux, où est née une vague de dénonciations par des personnes ayant été victimes de ces violences. L'épidémie de Covid 2019 et la réponse qui lui a été donnée, le confinement quasi généralisé de la population pendant lequel de nombreux enfants se sont retrouvés obligés à rester à leur domicile, a visibilisé et exacerbé les violences subies par les enfants dans leur famille. L'inceste, une violence systémique. Toutes ces révélations ne sont pourtant pas les premières. Leur caractère inédit peut être tout à fait relativisé et laisse une impression d'hypocrisie et ou d'amnésie collective sur la question de l'inceste. Le sensationnalisme et le voyeurisme liés à ces affaires ont une part évidente dans leur médiatisation. En France, ce sont en effet 2 à 3 enfants par classe qui seraient concernés à l'école élémentaire. Une estimation certainement basse situe autour de 10% la part des personnes ayant subi des violences sexuelles durant l'enfance. Nous sommes des personnes concernées et par ce texte, nous voulons visibiliser le caractère systémique de l'inceste, les oppressions qui le traversent et réfléchir aux réponses à y donner. Nous sommes partis du constat que si la famille est souvent présentée comme un espace de refuge et de solidarité face à une société capitaliste, elle est aussi un lieu où s'initient de nombreuses dominations et violences. Ces violences s'étendent à la suite. Mais ces violences s'étendent par la suite à d'autres aspects de la vie en société, dans un système patriarcal. On rappelle que si dans la majorité des cas, ce sont les conjoints qui frappent leurs conjointes, ce sont aussi une grande majorité d'hommes qui agressent sexuellement des mineurs dans leur famille nucléaire ou élargie, autour de 95%. Nous constatons par ailleurs, au regard du lien qui unit les incestés et les incesteurs, que les rapports structurels de domination dans les milieux scolaires, sportifs, d'aide sociale à l'enfance, etc., sont du même ressort que ceux qui s'exercent au sein de la famille biologique. Dans toutes ces situations, de façon quotidienne, ce sont des personnes dépendantes d'adultes en qui ils ont confiance, qui sont amenées par la force physique ou à la persuasion à avoir des rapports sexuels avec des personnes qui les dominent. De la même façon que l'on parle d'une culture du viol, ces faits montrent que notre société est traversée par une culture de l'inceste qui touche aussi les institutions directement en lien avec les enfants. L'inceste est présenté comme un phénomène soi-disant tabou, hors du commun, de l'ordre de la maladie psychiatrique. Il est présenté comme une émergence ponctuelle du mal, moralement condamnable. Les monstres que l'on pointe du doigt et dont la purge par la judiciarisation libérerait la société de ces criminels par enfermement à perpétuité et mort sociale. Ils deviennent alors des exutoires publics qui permettent de se débarrasser en apparence du problème, tout en ne questionnant pas l'origine du phénomène, sa banalité et son caractère systémique. Nous pensons que les récentes lois et propositions soumises par l'État pour la protection des enfants, exemple, loi sur l'âge du consentement, ne sont que de la poudre aux yeux. Comme à chaque fois, la réponse de l'État à la violence de l'inceste est en réalité toujours la même, la voie judiciaire et carcérale. Inceste structurel, racisme structurel. Nous sommes féministes, anticarcérales, pour diverses raisons, mais la principale est que le milieu pénal est profondément raciste et classiste. La justice à laquelle on demande de la répression contre les violeurs est la même justice qui condamne toujours les mêmes catégories de population, jeunes racisés sans papier, de classe populaire, etc. Aux mêmes punitions brutales, avec la même sévérité et toujours dans le même but, perpétuer le système. Un système d'hommes blancs, riches, solidaires, entre eux et avec beaucoup de pouvoir. La justice n'est pas notre allié. Aujourd'hui, nous faisons aussi le constat que l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, censée protéger les mineurs, place au centre du viseur les personnes racisées de classe populaire. Il n'est plus à prouver que cette institution est sclérosée par le racisme structurel. Le traitement de l'ASE envers les personnes descendantes de la colonisation est plus dur qu'avec le reste de la population. C'est aussi une institution très ambivalente. Des enfants racisés souffrent d'un concept que Fatima Wasak nomme « désinfantisation ». Considérer des enfants racisés comme étant adultes, les traiter aussi durement que leurs parents. Parfois, leur sort peut être totalement ignoré ou occulté, notamment celui des adolescents, adolescentes incestés. Certains professionnels peuvent par exemple partir du principe qu'à 14 ans, une enfant racisée peut être consentante car elle est perçue comme adulte. Ou dire des choses telles que « l'inceste est très présent dans la culture rome ou arabe », alors qu'il y a bien une chose dont nous sommes sûrs. Tout comme le patriarcat, la culture de l'inceste est présente dans toutes les classes sociales, toutes les sociétés et tous les pays du monde. Nous redoutons que ces nouvelles dispositions ne fassent qu'augmenter le nombre de signalements injustifiés envers des personnes racisées. Nous craignons des possibles dérives et instrumentalisations fémonationalistes, utilisation du féminisme à des fins répressives et racistes notamment, et que des personnes les plus surveillées et punies soient en grande partie des hommes racisés, comme cela a pu être le cas avec la création du délit de harcèlement de rue. Lorsqu'on est une personne racisée, subissant de l'inceste, il est parfois impossible de parler, de briser le silence, car les enjeux ne sont pas des moindres. Parler, c'est risquer la rupture familiale. Dans ce pays, pour faire face au racisme ambiant, la famille peut être une ressource précieuse. Dénoncer, c'est mettre cette protection et cet équilibre en danger. Ça veut aussi dire qu'on risque de perdre ses racines, ses langues, et qu'on se retrouve seul face à un pays qui nous déteste. De plus, parler de ce que nous vivons à des personnes blanches, c'est possiblement s'exposer à des réactions racistes. Sortir du féminisme carcéral. Soyons clairs, nous ne condamnerons jamais une personne victime d'agression qui décide de porter plainte. Nous comprenons intimement la nécessité de se sentir écoutée, crue, comprise, en sécurité. Il ne s'agit en aucun cas de juger les stratégies individuelles de chacun et chacune, car il est évident qu'on fait comme on peut avec les outils disponibles pour affronter la situation. Par contre, nous accusons la justice, la police et la prison, en un mot, l'État, de se poser comme intermédiaire obligatoire, omniprésent et totalitaire dans les affaires de violence, et de nous déposséder de nos vécus. Pour toutes ces raisons, nous comprenons l'appel des associations de victimes à des lois plus protectrices. Mais pour toutes ces raisons, nous pensons qu'il est indispensable de comprendre l'impact concret de telles lois sur les personnes ciblées par le système judiciaire et carcéral. Les luttes féministes n'ont donc aucun intérêt à aller sur le terrain punitif et ont tout intérêt à s'émanciper du système pénal. Ce n'est pas l'angélisme. Nous savons que la violence est quotidienne, le viol banal, le silence écrasant. Nous le savons que trop bien, mais nous considérons que l'État ne nous protégera pas de l'inceste et plus généralement du patriarcat. D'une part, car la justice poursuit avant tout des délits économiques et que les prisons ont historiquement toujours servi à protéger le capitalisme et l'impérialisme. D'autre part, car il n'y aura jamais de tribunaux et de prisons assez grandes pour punir tous ces actes. Si une femme sur trois a vécu des violences dans sa vie, c'est qu'il y a bien un agresseur derrière chaque agression. Alors franchement, quel est le projet? Les enfermer tous? Et donc, qu'est-ce qui est le plus réaliste pour nous, féministes? La gestion punitive des violences patriarcales ou considérer sérieusement d'autres stratégies pour y faire face? Ces alternatives à la justice pénale existent. Elles ont été réfléchies par des communautés qui ne pouvaient se permettre de faire confiance à la police et à la justice. Communautés autochtones et noires en Amérique du Nord, communautés LGBTQA+, et qui se sont organisées concrètement pour prendre en charge, sans l'État, les violences patriarcales. Il est tout à fait possible et, de notre point de vue, urgent de faire mieux que la police et la justice. En tant que féministe, on ne peut que faire mieux. On doit faire mieux. Les féministes en lutte contre l'inceste et son monde.
Ça m'aurait apporté quoi à moi, victime d'agression sexuelle, que mon agresseur meure? Je vais essayer de faire court, mais je suis en colère. Je suis en colère parce qu'il y a deux jours, j'ai fait une vidéo sur la vieille couille de Vendée qui nous sert de ministre de la Justice, sur le fait qu'il voulait castrer chimiquement les auteurs d'actes pédocriminels, ce qui était déjà une idée de merde en soi. Mais bon, ça vient de Bruno Retailleau, jusque-là, rien d'étonnant. Sauf que c'était sans compter sur les commentaires, où là, j'ai vu plein de gens me dire qu'ils étaient pour la peine de mort. Il y a un truc qui me marque, c'est que j'ai jamais entendu une victime d'actes pédocriminels plaider pour la peine de mort. Bah ouais, peut-être demandez-nous notre avis. Je dis pas, hein, peut-être qu'il y en a qui sont pour, mais je l'ai jamais entendu. C'est toujours des proches des gens autour. Bah, en fait, ça me fait penser à un truc, c'est que vous avez juste envie de vous venger, vous avez envie de nous venger parce que vous avez pas su nous protéger. Sauf que la justice, elle est pas là pour nous venger, la justice, elle est là pour essayer de nous réparer et pour empêcher les auteurs d'actes criminels de reproduire des actes criminels. Deuxième chose, si on veut la peine de mort pour les pédocriminels, c'est prendre le risque de condamner à mort des innocents. Et ensuite, imaginez un peu ce qui va se passer dans la tête d'un enfant qui a été agressé par son père, son frère, son oncle, son cousin, son meilleur ami, quand on va lui dire si tu dénonces papa, papa il va mourir. Les enfants ont déjà énormément de mal à parler, c'est pas en leur mettant la mort de leur père sur les épaules que ça va s'arranger. Très clairement. Moi j'ai mis 13 ans à parler de ce qui m'était arrivé. J'avais peur de ce qui allait se passer. J'avais peur de ce qui allait se passer pour moi et j'avais peur de ce qui allait se passer pour mon agresseur parce que j'ai aucune confiance dans la prison et j'ai aucune confiance dans la justice. Et puis dire oui mais ça fait peur aux gens, s'il y a la peine de mort, eh ben ils arrêteront de violer. Bah non, en fait, parce qu'on a plein de pays dans lesquels il y a la peine de mort et... Bizarrement, c'est les pays qui ont des taux de criminalité au moins aussi élevés que le nôtre. Et imaginez juste un instant qu'on se retrouve avec le RN ou n'importe quel autre parti fasciste au gouvernement. Bah on va pouvoir faire condamner à mort qui on veut, sous prétexte qu'on les aura accusés de pédocriminalité. ça va aller vite. Et quand on voit ce que pensent certains militants du RN des personnes homosexuelles, ça va vite ressembler à une purge. Et surtout, rétablir la peine de mort, c'est l'argument des gens qui n'ont pas envie de se poser de questions. C'est pas des pulsions sexuelles, c'est de la domination et de la prédation. C'est des gens qui veulent exercer un pouvoir. Et il n'y a pas de cible plus facile qu'un enfant pour exercer son pouvoir. Donc vouloir rétablir la peine de mort, c'est juste ne pas se poser la question du monde dans lequel on vit. C'est maintenir un système établi et renforcer encore les plus puissants. Et je vais finir par parler de moi. Ça m'aurait apporté quoi à moi, victime d'agression sexuelle, que mon agresseur meure ? Rien. Aucun réconfort. Au contraire, je saurais que parce que j'ai parlé, quelqu'un est mort. Parce que j'ai ouvert ma bouche, parce que j'ai décidé de dire ce qui m'était arrivé, pour essayer de me réparer moi, j'aurais tué quelqu'un. Arrêtez de prendre votre fantasme de grande justice implacable et immédiate qui sauverait tous les enfants du monde. Ça n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est une politique progressiste, une politique d'éducation et une politique qui mette à bas la domination de l'homme par l'homme. Prenez soin de vous et prenez soin des autres.
Chambre des comparutions immédiates, Toulouse, octobre 2020.
Mehdi comparaît pour avoir frappé sa compagne très violemment après une soirée arrosée. Parce qu'il aurait reçu des textos d'autres femmes, une dispute a éclaté. Linda a fini aux urgences au milieu de la nuit avec de multiples blessures. Ecchymose sur tout le corps, plaie à la tête, 10 jours d'incapacité totale de travail. La jeune femme est présente, assise sur le banc des parties civiles, même si on apprend dès le début du procès qu'elle a retiré sa plainte. Le président ponctue le récapitulatif des faits de « Vous confirmez, monsieur ? C'est bien ça, monsieur ?» qui n'attendent pas de réponse, puisqu'il laisse rarement le prévenu finir une phrase. Comprenant que les questions n'en sont pas réellement, celui-ci finit par renoncer à dire quoi que ce soit, même s'il continue à secouer obstinément la tête. Après avoir rappelé qu'en garde à vue, Mehdi a affirmé que les violences étaient réciproques, que sa compagne l'avait frappé à plusieurs reprises et lui avait même jeté une chaise dessus, le président conclut, narquois.
À vous entendre, vous avez fait ça pour vous défendre.
L'ironie tombe à plat quand Mehdi revient sur ses déclarations et reconnaît simplement les faits. La victime est appelée à la barre, et ce qui intéresse le président en premier lieu, c'est de savoir pourquoi elle a retiré sa plainte. Au début presque courtois, le ton du président se durcit quand la jeune femme dit que son compagnon a besoin d'être soigné, pas d'être enfermé. Rapidement, le président la traite comme le prévenu. Il lui coupe la parole sans arrêt et, comme elle s'entête à dire que l'incarcération n'est pas une solution, il l'assomme brutalement de revenir aux faits. Elle confirme donc les déclarations faites à l'hôpital. Elle ne l'a pas frappé. Si elle a brandi une chaise, c'était pour se protéger. Ce soir-là, son compagnon avait beaucoup bu. Une bouteille de whisky. Soucieuse néanmoins de ne pas réduire son compagnon aux faits qu'on lui reproche, elle ajoute aussitôt qu'il boit parce qu'il a le mal-être. Lassé, le président, qui manifestement ne tient plus tant aux faits, tente un coup bas.
Bon, il vous trompe.
Elle ne le pense pas. Il insiste.
Il reçoit pourtant des textos.
Elle répète que c'est un garçon qui a besoin d'aide et de soutien. Désireux d'aider à remettre Linda sur les rails du témoignage conforme, le procureur rappelle un précédent. Un conflit avait déjà eu lieu en janvier et le couple avait été poursuivi pour violence réciproque avant que la procédure ne soit classée sans suite. Elle a avoué aux policiers qui l'ont interrogé à l'hôpital avoir à l'époque minimisé la violence de son compagnon. Mais elle ne se souvient pas avoir dit ça. Il revient à la charge. La jeune femme nie catégoriquement. Sous le choc et sous morphine, quoi qu'elle ait dit à l'hôpital, ça n'est pas vrai. Il change de méthode. Sa voix s'adoucit pour lui poser des questions retorses. Est-ce que Mehdi est dangereux ? Est-ce qu'il peut recommencer ? La jeune femme esquive. Il n'est pas dangereux, mais en souffrance. Et s'il est suivi correctement, il ne recommencera pas. En désespoir de cause, le procureur lui demande pourquoi elle n'a pas jugé bon d'avertir les officiers de police des problèmes d'alcool lors des événements de janvier. Linda répond simplement que la consommation d'alcool était moindre. Elle refuse décidément de se plier à l'exercice. Qu'à cela ne tienne, dans son réquisitoire, le procureur opte pour de la pédagogie musclée.
Peu importe aujourd'hui qu'elle veuille retirer sa plainte. Une fois les faits dénoncés, elle perd la main sur ces faits. Je ne sais pas ce qu'attend madame de la justice et cela m'importe peu. Aujourd'hui, elle a 10 jours d'ITT. Demain, ça sera plus. Et après-demain, elle ne sera pas là pour témoigner. Elle attend quoi ? De faire un orphelin ? Cette attitude ne rend service à personne, ni à elle, ni à son enfant, ni à la société.
Soucieux de « poser des limites », comme il le dit, il demande 18 mois ferme et le maintient en détention. Pris par le mouvement qui a transformé la victime en une seconde coupable, l'avocat les défend tous les deux.
Cette femme vient un peu à contresens de ce qu'on pensait de cet homme depuis qu'on l'a réduit à un dossier. Elle est venue vous dire qu'elle ne croyait pas que la prison puisse les aider. Vous lui dites « Ça ne nous intéresse pas ce que vous pensez de votre compagnon. Mais enfin, qu'est-ce que cette justice-là »
Mehdi est condamné à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis probatoire et maintien en détention. On l'emmène. Affaire suivante.
Et pour conclure, je vais terminer par un petit extrait d'une lettre de Marina et Maïté au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes en mai 2017. La très médiatisée sécurité de l'État ne nous concerne pas. Nous, les femmes, les pauvres, les exclus, les rebelles, les dissidentes, les déviées, les immigrés, les précaires, les prisonnières, nous ne sommes pas en sécurité. Nos vies sont en danger. Faites gaffe, les amis, et continuez le combat pour en finir avec les prisons. Ça devient urgent. Voilà, c'est la fin de cette émission de L'Envolée. Donc, pour rappel, on vous a fait écouter plusieurs sons différents de prise de parole de prisonniers ou prisonnières ou de personnes concernées par le viol et les violences sexistes qui critiquent ou questionnent l'enfermement des violeurs et des personnes violentes. Si vous voulez avoir des détails sur ce qu'on vous a passé, on mettra tout sur notre site internet l'envolée.net. Et on va vous laisser, on va clore cette émission avec une pensée particulière pour tous les prisonniers, toutes les prisonnières, ceux et celles qui luttent et leurs proches, surtout en ces temps de canicule. Grosse force à vous, j'espère que vous pouvez vous organiser comme vous le pouvez pour avoir un peu moins chaud, surtout que malheureusement c'est que le début. Je vous rappelle, pour nous contacter, c'est important pour faire vivre cette émission, l'adresse c'est l'envolée-fpp 1 rue de la Solidarité 75019 Paris. Le contact toute la semaine, répondeur et texto, c'est 07 53 10 31 95. 07 53 10 31 95. Il y a le mail contact@l'envolée.net, l'envolée tout attaché sans accent. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram @l'envolée journal. Voilà, et vous pouvez suivre toutes nos émissions sur toutes les plateformes de podcast et nos émissions, nos communiqués, des lettres et plein d'infos sur le site l'envolée.net. On vous laisse pour cette fois, c'était l'envolée du vendredi 26 juin 2026. Force, courage et détermination à tous et toutes. Et comme d'habitude, il n'y a pas d'arrangement.
The flow is like jumping over Jason Terry on purpose and answering the reporters like, yeah, money deserved it. Handling my supporters, so yeah, the money is perfect. Winners from the beginning, but shit, the running was worth it. Me, shit, I'm working. My hustle for Bergen, they boost them and then they use them to boost. Stuff in the Bergen, the truth is I'm in the booth for a coup. Loving to learn it, the truth is all I'm giving to you. So how you turning? How was me from the day that you opened the CD tray and the covers to cloud nine and you loaded your CDJ? And now that I'm top five and I'm only a beat away and my hands is full of music and bras, I'm Stevie J. Too fly to be a backpacker, frisbees is thrown too high to be a trap rapper and no one can rap after. Ha, same story they told Sean. Fast forward 600 mil, the burrow's on.
I hear you talking, but you ain't saying nothing. I could hear you talking, but you ain't saying nothing. Perfection, most of y'all won't make it. It's the natural selection. Said you do it for the love, if y'all showing no affection. But me, when I spit it, you know that I really mean it. Make the hair stand up on your chest, cause you believe it. I'm bigger than what you're singing, greater than my appearance. My spirit is up ahead of me, running the interference with my spirit.
a star. Up here with the sky, we both hover. So even if you're learning to fly, you can't cover, cause we up too high. Play your position down under mud. I hate you talking, but you ain't saying nothing. I could hear you talking, but you ain't saying nothing. I could hear you talking, but you ain't saying nothing. Yeah, I hear you talking, but you ain't